Vous écoutez
RMC.
Messieurs, Bordeaux, premier qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France pour la première fois depuis 2 ans. Bordeaux passé 32e, victoire 2-0 face au Mans, brillant sur penalty en première période et Bazic en deuxième pour la qualification des Bordelais face au 17e de Ligue 2. Appelez-nous supporters bordelais, Kevin, t'en retiens quoi? Rien, un peu, beaucoup.
Un peu quand même, c'est jamais
fin de série hein, pour les Bordelais. Hein.
Ouais, puis c'est jamais facile hein, lorsque vous êtes footballeur professionnel de reprendre ou amateur d'ailleurs, mais de reprendre avec cette Coupe de France tout début janvier. Alors là, il n'y avait pas des températures négatives, hein, mais en tout cas, j'ai trouvé les Bordelais appliqués, sérieux. Un match cohérent de l'équipe de Souza. Ils ont gagné, c'était assez mérité. Bon, ils marquent le deuxième but à la fin. Assez flatteur le 2-0 parce que les Manceaux ont quand même fait bonne figure, qui sont un peu en difficulté en championnat, même si ça va un peu mieux ces dernières semaines. En tout cas, les dernières semaines avant la trêve. Et voilà, j'ai trouvé un match correct. Franchement, un match correct.
Daniel, t'as regardé le match ou pas?
Puisqu'il paraît que c'est toujours difficile de reprendre début janvier, moi je me suis fait à cette idée... qui est véhiculé depuis des années maintenant, donc je ne m'attends jamais à rien dans ce premier week-end, si ce n'est aux petites équipes qui réalisent les surprises, parce que ça fait c'est toujours un petit peu excitant, quoi. C'est le moment où le petit brille face au gros, c'est un peu traditionnel, même s'il y en a de moins en moins quand même année après année. Bref, ça sera peut-être pour ce week-end, parce que ce soir il y avait qu'un seul match, il n'y a pas eu de surprise. Bon, on s'est fait chier, mais bon, c'est toujours comme ça, puisque c'est toujours difficile de reprendre, comme t'as dit, Kevin. Donc j'ai vu une équipe du Mans qui a rien tenté en fait. Et sur la seconde période, je sais même pas s'ils arrivent à rentrer dans la surface. En tout cas, ils ont 0 occasion. C'est un brin mieux en première période. Bordeaux s'est contenté de son péno. J'oublie même le deuxième but parce qu'il arrive dans les arrêts de jeu, il sert plus à rien. Voilà, stade vide.
Ou presque.
Faudrait peut-être en parler un petit peu aussi parce que ça commence à devenir une vraie habitude.
Est-ce que Daniel, c'était le 3 janvier, match de Coupe de France contre une Ligue 2?
Mais non, mais
attends, pas avoir 30 000 personnes à Bordeaux ce soir.
Non, mais je m'attendais pas à avoir 30 000, mais de là à avoir 5 000, ou de là à avoir surtout la continuité d'un problème qui est de plus en plus récurrent à Bordeaux, à savoir que de plus en plus de gens se détournent du foot. Est-ce que c'est dû à l'équipe? Est-ce que c'est dû à la direction en place, qui pourtant a mis en avant une volonté de remplir le stade, qui en a fait même un argument marketing en développant des idées absolument fumeuses pour remplir le stade? Visiblement, ça marche pas du tout, quoi. Donc, la nouvelle direction, déjà, va commencer à se poser des questions là-dessus. Ouais. Je suis désolé, je parle d'autres problèmes, parce que le match, il sert à rien d'en parler. Enfin, à moins que vous ayez beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais Bordeaux se qualifie ce soir. Voilà, on va retenir ça. Affluence minimale, match très moyen. Qualification, ok, très bien, au revoir, merci, quoi.
Tiens, puisque ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu Le Mans à la télévision. Le Mans de retour en Ligue 2.
Contre le PSG, là.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison.
De la Ligue,
ah oui, ils perdent contre le PSG. On accueille Mickaël, supporter du Mans. C'est pas tous les soirs qu'on accueille un supporter manceau dans l'after. Salut Mickaël et bienvenue. Salut,
bonjour Mickaël. Messieurs, et meilleurs vœux à vous.
Et bonne année 2020, t'as raison.
Bonne année toi aussi, supporter du Mans, même de la grande époque ou récent?
Ah non, supporter de la grande époque.
La grande époque, je parle de la fin des années 2000, hein, il y a une dizaine d'années.
L'époque Romaric, Gervinho, Tullio de Melo.
Ouais, c'est ça.
Rudy
Garcia sur le banc.
Drogba.
La meilleure saison.
Et même quand ils avaient pris
Drogba, t'as raison.
Quand ils avaient pris l'imitation José Mourinho là.
Duarte.
C'est à l'époque où il y avait beaucoup d'imitations.
José Mourinho. Et encore des imitations José Mourinho.
Canada Dry Mourinho, il y en avait pas mal à une époque. Mais moins époque Errol Goulon alors pour toi.
Ah si, j'avais connu Errol Goulon aussi.
Non mais c'est moins fringant à ce moment-là, c'est moins brillant Le Mans avec Errol Goulon.
Ah bah oui.
Puis Yoann Pelé également, hein, encore en activité. Hein.
Et oui, l'Albatros, oui.
L'Albatros, hein.
Peut-être prolonger.
Ou j'avais complètement oublié ce
Yoann Pelé, gardien. L'Albatros. Bah non, tu l'as revu en fin d'année 2019
quand il a
sur Penalty,
le
péno, bien
l'Albatros.
Sûr. Il a déployé ses ailes.
Ah mais j'avais oublié le surnom.
Un ancien coéquipier aussi, Mickaël, je sais pas si tu te rappelles, je pense, de Guillaume Loriot.
Guillaume Loriot, c'est franchement un ami.
Très beau joueur.
Et j'ai une bonne collection de maillots de sa part, donc en plus, c'est un bon ami.
Ouais. Daniel Cousin aussi, non? C'est ça, ouais,
ouais, ça, c'est Daniel Cousin, c'est tous les mecs du monde à la fin des années.
Ah, mais la Ligue 1, quand même.
Son autographe.
À qui? De qui?
De Daniel Cousin et Fabrice Pancrate.
T'as eu son autographe?
Contre le PSG.
C'est très rare, l'autographe de Daniel Cousin, je pense, en France. Non, mais ça coûte cher, tu sais, Mickaël, je me moque pas de toi. Hein. Il était assez avare, l'autographe. Moins, bon, Mickaël, t'as pensé quoi ton équipe ce soir face à Bordeaux?
Le plus important, c'était au moins un match de préparation, parce que c'était pas facile de trouver un match important. Donc, le plus important, c'est le maintien. on a pu faire jouer les joueurs.
Ah, donc en fait, tout le monde s'en fout de la Coupe de France. Bordeaux, c'est juste un match de reprise, on s'en fout. Le Mans, c'est éviter le maintien, donc c'est un match d'entraînement.
Non.
Donc
quoi, bah,
prévenez-nous, les mecs, on en parle pas si c'est un match d'entraînement alors.
Non, mais on a pu avoir un match autre qu'un match de préparation. Ah ouais. On a pu faire une revue d'effectifs.
Ah, mais c'est sûr que si les supporters sont pas ambitieux, les joueurs vont pas l'être non plus. Hein. Si les matchs, vous voulez pas les gagner, ni les supporters, ni les joueurs, on s'en fout. C'est bah, ça.
C'est
le...
pas ce qu'il a dit, Daniel.
Mais si, c'est ça. Non, mais en Angleterre, t'entendrais pas ça. T'entendrais pas un supporter d'une petite équipe dire au moment du match de coupe, qui est en plus un événement traditionnel, et normalement la France c'est l'autre pays de la coupe nationale, dire mais je t'en veux pas à toi perso. Je dis ça comme ça. Mais en fait, les joueurs s'en foutent, les supporters s'en foutent, bah tout le monde s'en fout, et ça fait 5000 personnes ce soir à Bordeaux, notre football il en est là, quoi. Voilà.
Mais nous on peut dire qu'on a été gâtés, parce que Le Mans, il y a 5 ans on était en DH, là en peu de temps on a joué Nice en Coupe de la Ligue, on les a tapés, on a joué le PSG, on a pris que 4-1, et là on joue Bordeaux, encore une équipe de Ligue 1. Et franchement, je trouve que en 5 ans, on a pas mal progressé. On était au fond du trou.
Il y a toujours une façon de relativiser.
Et là,
Mickaël, t'avais peur de prendre une fessée ce soir face à Bordeaux, qui est plus un cadre de Ligue 1. 2-0, ça te va, quoi? Ce que tu nous dis.
Je trouve que 2-0, c'est quand même flatteur, parce que on a quand même.
Mickaël, si tu me permets, je vais aller dans ton sens. Parce que je vois que Nico et Daniel sont pas trop d'accord.
Non, mais... pas du tout. Attends, moi je suis prêt à ouvrir le champagne moi pour fêter
Daniel,
le bon résultat.
Personne n'a parlé de champagne, mais tu sais, il y a un club qu'on connaît bien.
Vas-y.
Il y a un club qu'on connaît bien, l'After, c'est Strasbourg, qui aujourd'hui est revenu au plus haut niveau. Mais Le Mans, ils ont exactement la même trajectoire. Ils sont redescendus en DH.
Est-ce qu'il y a toujours une façon de relativiser la vie?
Ils étaient il y a pas longtemps, Daniel. C'est leur première année professionnelle depuis peut-être 4 ou 5 ans. Ils reviennent de très loin, et donc recevoir le PSG, c'était déjà une belle fête. Même s'ils ont perdu 4-1, c'était déjà une belle fête. Et là, aujourd'hui, se faire éliminer après une fin d'année
et un début de saison, c'était la fête.
Attends les gars,
on parle de la belle fête contre le PSG là.
On voit des clubs de 4e division nationale ou 5e division qui tapent des Ligue 1 tous les ans quasiment en Coupe de France. Tu veux pas te contenter d'une défaite comme ça 2-0 face à une Ligue 1 moyenne actuellement.
Il a pas dit qu'il se contentait.
Tu peux espérer plus dès le début.
Les années récentes étaient
comment se construisent les équipes en Coupe de France?
Il a pas dit qu'il s'en contentait, Nico, il a dit que pour un supporter du Mans, savoir d'où ils viennent.
Il a dit c'est un match d'entraînement.
C'est pas un match d'entraînement. Il a dit que c'était un bon match de préparation après avoir bien fini la saison.
Ah, match de préparation, c'est pas l'entraînement.
Pour préparer la deuxième partie de saison.
Pardonne-moi cette confusion. Effectivement, ça n'est pas pareil. C'est vrai.
Eh oui, c'est pas un match d'entraînement. Pour moi, ça n'existe pas, les matchs amicaux. Encore moins quand c'est un match officiel.
Vas-y, Mickaël.
Ça va être le match le plus important de la semaine, au CR. Parce qu'on est quand même après
17e de Ligue 2.
Avec 3 points. Et là, on est quand même 15e du championnat.
Non mais je vois ce que tu veux dire. Moi je suis pas d'accord avec Daniel. J'ai vu une équipe du Mans qui a été cohérente en tout cas dans la première heure de jeu.
Non,
qui a
quand
même tenu tête à une équipe de Ligue 1.
Non mais c'est la Coupe de France.
C'est la Coupe de France, mais eux ils sont.
Mais vas-y, envoie quoi.
Mais non, ils peuvent pas.
Attends,
envoyer.
Un exploit, demande plus à tes joueurs.
Pas envoyer,
réellement.
Nico, la Coupe de France, ils savent qu'ils vont pas la gagner. Par contre, ils ont un championnat où ils doivent se maintenir absolument, d'accord. Parce que ça peut jouer la survie d'un club qui vient de remonter en Ligue 2. Donc eux, ils sont dans une phase de préparation où ils sont là pour faire le meilleur match possible. S'ils avaient pu se qualifier, bien sûr qu'ils l'auraient fait. Ils sont quand même tombés face à une équipe qui était meilleure qu'eux, qui a pris ce match au sérieux, on l'a déjà dit. Et Le Mans aujourd'hui qui est mené 1-0 à la 90e face à une équipe de Ligue 1 correcte, avec un bon entraîneur, je suis désolé, pour eux, c'est pas une mauvaise soirée.
Ah non, c'est plutôt une bonne soirée, oui. En plus, on a un super ailier gauche, Stéphane Diarra, qu'on a récupéré en prêt il y a 2 ans de Rennes. On l'a eu l'année dernière, il a fait une super saison. Cette année, il est encore magique. Franchement, contre Nice, c'est lui qui nous fait des débordements. Et franchement, je sais pas si l'année prochaine on l'aura encore, mais franchement, je sais qu'il est supervisé à chaque match par des clubs anglais, Crystal Palace et Wolverhampton. Mais franchement, je dis que c'est quand même une pépite. C'est comme le petit Youssef Maziz. Franchement, prêté par Metz, c'est quand même des bons joueurs. Moi, je dis, il y a quand même des.
Et tu seras content s'ils partent, Mickaël.
Qui pourraient venir nous prendre nos joueurs.
Merci Mickaël d'avoir appelé au 32-16.
Merci Mickaël.
Je vous en prie.
Excellent, tu reviens quand tu veux dans l'after, évidemment.
Ça sera avec plaisir.
Bah, l'année prochaine, du coup, maintenant, puisque attendons la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, pour retrouver Le Mans en tout cas. Tiens, et puis on conclut avec Jérémy au 32-16, supporter bordelais. Salut Jérémy.
Salut tout le monde.
Bon, je sais pas si ce match t'a rassuré parce que Bordeaux était un peu en décrépitude en fin d'année 2019. Bon, c'est une reprise, quoi. pas plus.
Ouais, en fait, c'est surtout ça. C'était surtout qu'on a fait un mois de décembre catastrophique. Et en fait, ce qu'il fallait surtout aujourd'hui, c'était la victoire. Voilà, c'est un match de coupe, c'est un match qui n'est jamais évident. Un match au mois de janvier, il y a 5000 personnes, il n'y a pas grand monde. Moi, j'étais au stade, honnêtement, c'est triste.
À tel stade, toi?
Ouais, bah ouais, quand même.
Mais
ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait surtout, c'était la victoire. Après, le jeu, bah, il n'y avait pas, c'était pas encore extraordinaire, mais voilà, il fallait surtout stopper l'hémorragie. On repart du bon pied. On a Lyon qui arrive à la maison samedi, et il fallait vraiment se remettre les idées en place. C'est surtout ça, moi, que je note. Après la victoire, de toute façon, c'est un match de Coupe de France. Il fallait cette victoire. C'est la seule chose qu'on attendait, nous, supporters. On attendait juste ça, et surtout avoir une deuxième partie de saison qui soit un peu plus cohérente après voilà. Mais aujourd'hui, la seule chose qui comptait, c'était la victoire. Le jeu.
Et Jérémy.
Oui.
Comme t'étais au stade.
Oui.
Comment t'expliques, toi, la faible affluence? C'est juste l'affiche, ou on peut quand même parler de tendances très récurrentes dernières semaines?
Il y a des soucis, et je pense qu'on en a parlé, vous en avez parlé à l'after avec le board aujourd'hui à Bordeaux, qui fait que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des places rien que dans le virage sud. Je le vois moi-même, parce que aujourd'hui, moi, j'ai voulu acheter des places. Les places étaient à 5 €. Faut savoir que les abonnés c'était gratuit pour les abonnés, et les places étaient à 5 € pour dans tout le stade. Et quand j'ai voulu acheter des places sur le site internet au niveau de la tribune populaire avec les ultras, j'ai pas pu parce que il y avait apparemment le virage était plein. Bon, bah, non, le virage était pas plein. Donc il y a ce souci-là.
C'est quand même étonnant pour une direction qui n'arrête pas de dire que le chantier principal, c'est de ramener du monde au stade.
Ouais, mais il faut faire attention à ce que vous dites la direction. C'est surtout ça, c'est aujourd'hui, il faut faire vraiment attention.
Ouais, enfin, je ne sais pas si tu as noté, mais je le disais sur un ton ironique.
Ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des ultras, il y a Florian Brunet, il y a pas mal d'ultras qui dénoncent ça. Et ce combat-là, c'est un combat qui va être long et qui est compliqué, parce qu'aujourd'hui, nous, on se bat contre des personnes qui sont invisibles. On se bat contre un projet qui est invisible. Et aujourd'hui, comment fédérer toute une région quand on a un club qui n'est pas capable de fédérer ses propres ultras?
Jérémy, c'est pas nouveau, hein. C'est pas avec l'arrivée de King Street là que c'est.
Ça
fait quand même quelques années que le stade est aux deux tiers vide à Bordeaux.
Bordeaux, traditionnellement,
il faut que ça gagne à Bordeaux, je le connais.
Ça plaint quand ça gagne. Mais là, on est sur une tendance qui va un petit peu plus loin que l'habitude bordelaise que vient de décrire Nico. Là, il y a vraiment une sorte de problème de fond, quoi, entre la direction. Bon, alors, avec les supporters, ok, mais les supporters, à la limite, eux, viennent. C'est plus, est-ce que les gens à Bordeaux, qui avaient peut-être l'habitude de venir occasionnellement, justement, comme tu le dis, parce que tout est flou au niveau de la direction, qu'on ne sait pas vraiment qui représente ce club, qui sont les dirigeants de ce club, quelle est l'identité de ce club, où est-ce que va le club, est-ce que les gens qui pouvaient venir occasionnellement sont pas tout simplement en train de se détourner en se disant bon bah il y a peut-être mieux à faire à Bordeaux, et
il y a du rugby.
Vu qu'il se passe rien au club en ce moment, les supporters ont beau se battre, et ils ont raison, on les soutient dans ce combat-là, ça donne pas tellement envie
le problème qu'il y a aussi, c'est qu'aujourd'hui le sportif est malheureusement pas mis en avant, c'est l'extra-sportif qui est mis en avant c'est qu'aujourd'hui, comment vous voulez fédérer si le board n'est pas capable eux déjà de fédérer ses supporters, parce que qu'est-ce qui fait l'âme du club, c'est le supporter, c'est-à-dire c'est les mecs qui vont chanter pendant 90 minutes contre des équipes de milieu de tableau, de bas de tableau, on va être là, on va tout le temps être là, on va mettre l'ambiance, et ça va pousser les joueurs, et ça va donner notre âme, et ça va permettre d'aller choper 3 points là où on en choperait qu'un seul. Et il y a que le classement aujourd'hui à Bordeaux qui va pouvoir amener du monde. Et comment on fait pour avoir du classement? On a des joueurs, il faut avoir des joueurs compétitifs. Aujourd'hui, on a la chance, et ça faut le rappeler, d'avoir un entraîneur qui est super, qui est exceptionnel, qui essaye de mettre des choses en place. C'est pas facile parce qu'il essaye de faire bouger les mentalités.
Jérémy, permets-moi une précision. Permets-moi une précision. Quand tu dis l'âme d'un club, c'est les supporters. J'ai presque envie de dire, c'est surtout ce qui reste quand il n'y a plus rien. Parce que l'âme d'un club ne devrait pas être seulement les supporters. Si on se rappelle, à Bordeaux, tout le monde se rappelle de l'histoire de ce club, tu ne peux pas dire dans les années 80 ou même après, l'âme du club, c'est uniquement les supporters.
Exactement.
L'âme du club, c'est l'institution. C'était par exemple, pour prendre la période années 80, Claude Bess pouvait être l'âme du club, comme des mecs comme
Jiménez
ou d'autres joueurs, et était l'âme du club. Et il y avait également le public bordelais et les supporters. Ouais. C'est un ensemble. Mais quand aujourd'hui, effectivement, il ne reste que les supporters les plus fidèles, parce que la direction, c'est opaque, c'est des gens qui sont très loin, c'est des, pour ceux qui sont présents, des gens qui ne sont pas des Bordelais à la base, qui sont là pour gérer le club, des joueurs qui ne sont pas véritablement identifiés Bordeaux.
Il n'y a plus d'incarnation.
Oui, voilà, exactement. Exactement. Donc, il faut être précis quand on parle de ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est parce que, justement, plein de choses ont disparu que vous vous sentez seul. Et cette solitude, c'est ce qui fait mal à Bordeaux.
Attends, Jérémy, d'abord Kevin et après, vas-y.
Bah, bien sûr, comme dit Jérémy, les supporters, bien sûr, je l'ai déjà dit ici, à Bordeaux, ça reste quand même une des composantes qui rappelle toujours l'histoire, qui rappelle toujours l'amour que les gens ont pour un club et pour ce club en particulier. Maintenant, c'est vrai que cette problématique, elle se retrouve pas que à Bordeaux en France.
Dans beaucoup de clubs en ce moment, c'est une vraie souffrance pour pas mal de...
Il y a beaucoup de clubs en ce moment, en France et même peut-être à l'étranger, qui connaissent un peu...
À l'étranger aussi, on en parlera ces prochaines semaines quand on aura les émissions, parce que c'est un thème intéressant. Mais à la Roma, il est en train de se passer quelque chose, où après un Américain qui déjà était plutôt mal vu, va succéder à un autre Américain, il va y avoir une rupture, parce que les gens ne veulent plus du tout de ces...
On est en pleine désincarnation des clubs aujourd'hui.
Exactement. Et pour finir avec cette désincarnation, pardon. Vous vous rappelez de ce club anglais, c'est Cardiff, je crois, qui a changé ses couleurs pendant un moment parce que le propriétaire voulait jouer en rouge alors qu'ils sont en bleu à la base ou inversement. Donc,
ouais, mais Kevin, est-ce que tu connais un seul club ou est-ce que tu connais une seule situation où dans un club tu ne connais pas le propriétaire? Est-ce que tu connais, parce que tu me parles là effectivement de Cardiff, mais Cardiff, le propriétaire était là et les supporters ont donné leur avis. Là, le problème qu'il y a, c'est que tu peux même pas donner ton avis parce que quand tu demandes, quand tu veux parler, quand tu veux avoir des choses, quand tu veux être rassuré, parce que
entre toi et moi, Jérémy, entre toi et moi, à l'époque d'M6, il y avait aussi des problématiques. Il y avait aussi des problèmes.
Il y aura toujours des problématiques.
Donc, on va dire qu'ils avaient l'impression que Taverneau était quand même, s'il y avait un président délégué, et c'était en l'occurrence Jean-Louis Triault pendant des années.
Lui incarnait Bordeaux quand même.
Il incarnait le club, il pouvait parler aux supporters, les rassurer ou pas. Des fois, il n'avait pas tout.
Mais c'était un peu l'âme.
Parce qu'il ne tenait pas les cordons de la bourse, il ne savait pas tout.
Au
moins, tu avais l'impression qu'il y a un homme. Là, il n'y a pas d'homme. Enfin, il y en a un nouveau qui est en train d'arriver, mais qui est décrié et que les Bordelais ne veulent pas. En l'occurrence, Longue Épée.
Et ça, c'est un vrai problème. Ce qui se passe aujourd'hui dans le football moderne, c'est que ce sont des gens qui viennent, qui ne connaissent pas le football.
Oui, bien, on le sait que c'est un vrai problème.
Peu importe que tu viennes du club de Bordeaux, que tu aies cet ADN, ou que, par exemple, comme Villas-Boas à Marseille, toi, ton club de cœur, ce soit le FC Porto, mais tu arrives à Marseille, tu sais ce que c'est la culture d'un club, l'amour d'un maillot, l'amour d'un écusson.
Par contre,
si tu viens du monde de l'entreprise et que tu n'as jamais compris ou que tu n'as jamais su ce que c'est aimer un club, vibrer pour telle ou telle couleur, là, c'est difficile d'être l'incarnation d'un blason ou d'une institution.
Si tu n'as pas ça, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on posait la question de comment faire venir des gens au stade. Ce n'est pas avec des statistiques que tu feras venir des gens au stade. C'est pas avec des bouts de phrases. C'est juste effectivement, comme vous dites, avec une incarnation, c'est-à-dire avoir quelqu'un de fort, une personne qui va se battre pour le club, qui va se battre pour la région et qui va dire voilà, aujourd'hui, je veux que le FCGB devienne un emblème. Et si tu n'as pas ça, et si t'as personne à sa tête, et si t'as personne sur qui tu peux te reposer, et si t'as pas de communication, parce qu'aujourd'hui il y a pas de communication à Bordeaux, il y a aucune com.
Mais en fait,
tu sais, Jérémy, vous savez que c'est même encore plus compliqué que ça, et c'est là qu'on voit toute la difficulté du foot aujourd'hui. Je pensais pendant que vous disiez ça à l'incarnation, la désincarnation, mais vous prenez un club comme Saint-Étienne, il peut pas être plus incarné. Il y a que des supporters de Saint-Étienne partout dans le club.
C'est vrai.
Et il y a une rupture de dialogue totale aujourd'hui entre les supporters et la direction et les deux ne peuvent plus se parler et les uns ne supportent plus les autres. Et inversement. T'as envie de dire et de penser que quand ce sont des gens, tous stéphanois, tous supporters du club, normalement ça doit aller bien et tu dois pouvoir écrire une histoire ensemble, tu vois que là, ça colle pas non plus.
Parce qu'aujourd'hui, le football de haut niveau est devenu, moi je le compare souvent, alors quand je parle, peut-être pas ici sur le plateau, mais à un sport de précision. c'est vraiment, c'est comme la Formule 1 aujourd'hui, c'est comme le sport automobile. C'est-à-dire que non seulement il faut quand même avoir quelque chose, aimer ton club, aimer l'entreprise pour laquelle tu travailles, parce qu'aujourd'hui les clubs sont des entreprises, mais en plus, il faut avoir quand même le savoir-faire et l'expérience du sport de haut niveau et du football de haut niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, gérer un club, il faudrait presque avoir un centre de formation des directeurs sportifs ou des présidents aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on a que, alors on va parler de Petrov, bah, à Monaco
dans un instant,
alors,
bien sûr. Mais c'est un bon exemple, Monaco
que
aussi.
Que ce soit à Monaco, à Paris, avec El Khalifi pendant un long moment, c'est que des gens qui viennent soit d'un autre sport, soit d'un monde de l'entreprise.
Après,
c'est complètement différent.
Il faut savoir bien s'entourer. Certains viennent, mais là aussi, foot, mais savent s'entourer également.
Et là aussi, il y a plein de contre-exemples. Tu parlais de Monaco. Monaco, ils font demi-finale de Ligue des Champions. Et ils sont champions avec un propriétaire qui n'en a rien à carrer du foot, qui est venu là pour le business.
Il y a Vassiliev qui n'a pas du foot aussi.
Mais Vassiliev, quand il arrive, il connaît rien du foot.
Mais tu oublies un certain Campos.
Ah mais donc c'est bien.
Ah oui, mais bon, non, mais ça Kevin, change tout, on l'a vu à Lille.
C'est pour ça, non mais dans l'organigramme, tout dépend où tu as les personnes.
Non mais moi, je te dis pas que la personne qui arrive,
elle peut pas connaître le foot. Mais Campos, c'est pas venu avec l'amour de Monaco.
Encore
non, il n'en avait rien à cirer, Monaco.
L'amour et la connaissance du football.
Non, il n'est pas venu avec l'amour, il est venu avec l'idée, parce que c'est un connaisseur, de faire du business à travers le foot. Et de faire grandir un club.
On est d'accord qu'il faut connaître la matière première, qui est le terrain.
Oui, bah alors parle de connaissance, mais laisse les sentiments en dehors de
oui,
ça.
Non, mais...
Parce qu'il n'y a plus de sentiments. Monaco, il y avait une direction, les Ouistouks, ils ne connaissent rien. C'est tout. Et à Paris, quand Nasser, machin, et les Qataris arrivent, ils ne connaissent rien en ballon. Et mais d'ailleurs, Dieu sait si ça leur a aussi joué des tours. Mais si tu vas par là, tu prends Manchester United en ce moment, il y a énormément de clubs comme ça. Donc il faut trouver.
Il faut trouver
des nouvelles formules. Il faut trouver des nouvelles façons de gérer, de s'entourer. De bien choisir les personnes qui vont gérer ton club. Mais aujourd'hui, il y a énormément de supporters, et pas simplement en France, qui sont un petit peu perdus par rapport à ce qu'est en train de devenir leur club et leur football, simplement.
C'est ce que je te dis. Quand je te parle de mécanisme de précision, je ne parle pas forcément que la personne qui arrive investisse. Et, de toute façon, c'est toujours ce que je dis. Ceux qui investissent dans le foot, je peux te dire qu'ils ne connaissent rien au foot. Sinon, tu n'investis pas dans le foot. Si tu connais le foot, tu n'investis pas dans le foot.
C'est pas là où tu viens faire des affaires normalement.
Mais
voilà.
Les gars,
non, mais ça,
l'exemple de Macourt, il ne vient pas que pour le foot.
On est d'accord.
Il vient pour un réseau, il vient pour un développement de ses affaires à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, pour un parc immobilier.
Oui, mais ça Robert Louis Dreyfus l'avait fait à l'époque aussi.
Ils le font aussi, les Américains.
Ils viennent pour quoi? Ils viennent pour ça aussi.
Ils viennent pas que pour le foot.
Est-ce qu'un jour il y a les droits télé?
Ils ont une vue périphérique du business.
Eh ben non, c'est un business.
C'est un investissement.
On est sorti depuis 40 ans du foot à papa avec le président.
Le foot, c'est un prétexte aujourd'hui pour investir.
Mais même si c'est un prétexte,
et après tu construis autour.
Pour réussir.
Mais enfin, ça l'est même pour tapis à l'OM à l'époque, bien ça sûr. L'est pour Canal, juste au PSG, on découvre pas quelque chose de nouveau là.
10 secondes pour finir, même si c'est un prétexte, la précision elle est dans le fait de bien s'entourer,
d'avoir
un El Khalifi qui choisit Leonardo, d'avoir un Ribol of Life qui choisit un moment au Campos.
Donc si King Street choisit la bonne personne, que le bon entraîneur reste et qu'il y a une gestion cohérente, parce que là le problème de Bordeaux, parce qu'on en revient à ça, c'est en fait de ne pas savoir où ils vont. De pas décrypter le projet, c'est ça. Parce que là, on est parti. La preuve de ce qu'on est en train de dire, c'est la façon dont notre discussion a dévié. On est parti dans plein d'histoires à travers les 30 dernières années qui montrent qu'il n'y a pas de règles sur comment finalement s'en sortir réellement, si ce n'est le truc tout con de dire, il faut juste 3-4 personnes compétentes. Oui. Ok, Kevin.
Faut bien les choisir.
Ok. Mais t'es d'accord que c'est aussi simple qu'évident.
Oui.
Voilà.
Et puis après, il faut de la compétence.
Donc Bordeaux, que le mec soit à New York, que ce soit King Street ou King, ce que tu veux, ça va être dans le choix des personnes qui vont bosser et qui à un moment vont écrire le projet bordelais. Le problème du projet bordelais aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il est.
Voilà. Le problème Bordeaux est devenu un club abstrait.
Exactement.
C'est ça surtout. Jérémy, vas-y, conclue.
Non, mais pour conclure, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans que c'est un peu morose chez nous, depuis le titre de 2009. Et pour une fois, pour une année, on a un entraîneur qui a un projet, qui a envie de faire bosser les joueurs, qui a vraiment un état d'esprit irréprochable et aujourd'hui ben on se bouffe parce que l'extra sportif nous bouffe et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'il y a quelque chose de bien à faire et il faut que ça bouge, il faut que ça bouge très très vite parce que ça devient inquiétant pour nous supporters.
Ouais, ça devient inquiétant même vous, Jérémy, même vous les supporters, même si je comprends tout à fait que ce soit inquiétant, vous êtes tous les week-ends au stade ou un week-end sur deux, mais tu vois, tu disais il faut quand même pas créer un environnement qui pourrait même peut-être pousser le seul facteur stable de votre club aujourd'hui qui est Souza à vouloir partir, quoi.
Tu vois, mais t'es obligé. Comment tu veux faire?
Je sais pas si t'es obligé, Jérémy, parce qu'il y a un moment, tu vois, Souza, il faudrait presque qu'il devienne manager de votre club et qu'il prenne de plus en plus de responsabilités. Mais ça, c'est pas.
Dans Deval Perte, le Souza.
Lui, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on lui a vendu, même à lui, un projet, par exemple, cet été, avec du recrutement qu'il n'a pas eu. Il est resté. Là, cet hiver, il veut deux renforts. Est-ce qu'il va les avoir? Est-ce qu'il a de la communication, lui, avec les propriétaires? On ne sait pas. Et effectivement, à un moment donné, si le mec, on le prend pour un con, ben lui aussi va se barrer. Et là, on va se retrouver dans la merde.
Parce qu'il aura des offres.
Et ça, c'est la problématique. Et aujourd'hui, il faut que le dialogue s'installe. Il faut qu'on ait quelqu'un avec qui parler. Il faut que les ultras puissent être entendus. Il faut que Longuepée puisse être débarqué et mettre quelqu'un d'autre à sa place qui va pouvoir incarner un projet et avancer. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut, nous. C'est avancer surtout.
Merci Jérémy d'avoir appelé au 32-16. Excellente soirée à toi. Tu reviens quand tu viens de l'after, bien sûr. Voilà, et oui, d'un petit match de Coupe de France, un 32e de finale Bordeaux-Le Mans. On en fait un quart d'heure. Ça, c'est la magie de l'after, tu vois.